Merci d'écouter RFI. Midi en temps universel, il est 14h à Paris. Le journal, bonjour Paul Lonsin-Spinelli.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à tous.
Avec à la une cette première en 3 ans entre l'Ukraine et la Russie.
Ouais, la dernière fois que des délégations ukrainiennes et russes s'étaient entretenues directement, c'était en effet au printemps 2022, alors que Moscou venait de lancer son invasion de l'Ukraine. Ces réunions, elles s'étaient arrêtées à Istanbul, en Turquie, et c'est là qu'elles ont repris ce midi. Toutefois, les chances d'aboutir à un cessez-le-feu restent très minces. On reviendra aussi sur la fin de la tournée de Donald Trump au Proche-Orient. Le président américain qui a quitté ce matin Abu Dhabi, les Émirats Arabes Unis, le Qatar et l'Arabie Saoudite qui ont signé des contrats juteux avec les États-Unis en échange de transferts de technologies, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. La France, elle, dépose plainte devant la Cour internationale de justice contre l'Iran, qu'elle accuse d'empêcher Cécile Kohler et Jacques Paris, toujours emprisonnés dans la République islamique, de recevoir des visites consulaires. Et puis on sera au Festival de Cannes en fin d'édition pour parler du film Enzo.
Un fastueux palais stambouliote pour accueillir des négociations inédites en près de 3 ans entre l'Ukraine et la Russie.
Un des pourparlers directs qui ont commencé ce midi donc entre les délégations ukrainiennes et russes pour réfléchir à un cessez-le-feu. Sauf que Pierre-Olivier, sauf surprise, il ne devrait pas sortir grand-chose de ces discussions.
Mais c'est Donald Trump lui-même qui l'a dit ce matin. Le président américain juge impossible une évolution significative tant qu'il n'aura pas rencontré son homologue russe Vladimir Poutine, se disant prêt à organiser une réunion dès que possible. Alors forcément, cette déclaration jette un froid sur les négociations de ce midi. Des négociations boudées par Vladimir Poutine, qui avait pourtant lui-même proposé cette rencontre dimanche dernier. Rencontre à laquelle n'assiste pas non plus le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky, ni Donald Trump. Les espoirs de décision majeure sont donc faibles, d'autant plus que depuis le début de ces échanges, Kiev et Moscou se reprochent mutuellement de faire obstacle à la paix. Ce vendredi, un haut responsable ukrainien accuse la Russie de tout faire pour évincer les Américains des discussions et faire capoter toute possibilité de trêve. La Russie n'a pas envie d'un cessez-le-feu, ajoute ce midi Emmanuel Macron. Les pourparlers entre représentants russes et ukrainiens semblent donc pour le moins mal partis. Au centre de la table, la Turquie joue malgré tout les intermédiaires. À l'ouverture des discussions, Ankara a demandé qu'un cessez-le-feu soit mis en œuvre dès que possible, rappelant que chaque jour de retard entraîne de nouvelles pertes humaines.
Merci Pierre-Olivier. En parallèle de ces pour parler russo-ukrainien d'Istanbul, les leaders de la CPE, la Communauté politique européenne, c'est-à-dire 47 pays, dont ceux de l'Union européenne, mais aussi le Royaume-Uni, l'Ukraine ou encore la Turquie, se retrouvent à Tirana, en Albanie. Raphaël Delvolvé, vous êtes sur place et évidemment, l'Ukraine s'impose dans toutes les discussions.
Oui, le président ukrainien vient tout juste de s'exprimer. Volodymyr Zelensky dénonce la délégation russe finalement envoyée hier par Vladimir Poutine à Istanbul.
Il s'avère que la délégation russe n'est qu'une simple représentation théâtrale et ne peut produire aucun résultat. Nous devons avoir une réaction forte avec des sanctions incluant le secteur de l'énergie russe et leurs banques.
Voilà, un appel à accroître la pression qui trouve évidemment un écho chez les alliés européens de l'Ukraine, la France notamment, dont le président Emmanuel Macron a pris la parole, c'était également il y a quelques instants.
Les dernières heures ont montré que la Russie n'avait pas envie de cesser le feu. Et que s'il n'y a pas une pression accrue des Européens et des Américains pour obtenir ce résultat, il ne sera pas spontané.
Alors justement, ces sanctions, on va en parler ici à Tirana, puisque la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est également présente. Elle veut saisir l'opportunité.
Nous allons accroître la pression. Nous travaillons sur un nouveau train de sanctions. Nous voulons la paix et nous devons accroître la pression sur Poutine.
Voilà, en réflexion notamment des sanctions financières et contre le pétrole russe, qui serait une sorte de 18e train de sanctions depuis le début de la guerre. Il doit forcer Vladimir Poutine à accepter ce fameux cessez-le-feu. Alors rien ne sera décidé ici. La communauté politique européenne, ce sont surtout des discussions. Illustration donc cet après-midi avec une, voire plusieurs réunions bilatérales entre chefs d'État et de gouvernement ici à Tirana.
Merci Raphaël Delvolvé en direct d'Albanie pour RFI. Ces rendez-vous diplomatiques en Albanie, en Turquie, ils sont suivis de près par la population ukrainienne. Mais il faut le dire, pour une partie d'entre eux, l'espoir de voir le calvaire de la guerre s'arrêter est bien maigre, notamment dans l'est ukrainien, dans la région de Donetsk à Kramatorsk, où c'est un sentiment de résignation qui prédomine. Emmanuel Chaz.
Au centre-ville de Kramatorsk, sur la place de la paix, des habitants profitent du coucher du soleil au moment où tout le monde s'interroge sur un éventuel cessez-le-feu. Pour ces habitants qui vivent la guerre au quotidien, des négociations semblent impensables. Yana, commerçante, confie être revenue dans la ville après avoir trouvé refuge en Pologne et malgré la proximité du front.
Nous sommes d'ici. Nous sommes partis en 2022, mais nous sommes revenus l'année suivante. Là où j'étais, je me sentais encore plus mal qu'ici. Beaucoup d'entre nous sont revenus et beaucoup, beaucoup d'enfants.
Des enfants qui ne peuvent être scolarisés qu'en ligne, car ici, toutes les écoles sont fermées. Et Yulia, une amie de Yana, ne s'attend pas à un arrêt des combats rapides.
Il n'y aura pas de trêve, ça n'arrivera pas, c'est ce que disent nos soldats. On ne peut pas faire confiance à Poutine. Jusqu'à ce que ce monstre meure, rien ne se passera.
Pour Sergi également, la vie loin de Kramatorsk est impensable.
Je suis policier depuis 22 ans. Lorsque la guerre à grande échelle a commencé, je suis revenu d'Europe et je suis venu ici pour m'engager. Je vis là depuis 2 ans maintenant, sans quitter cette ville, et je ne pense pas qu'il y aura une trêve. Mais quand nous serons victorieux, ce sera différent.
À Kramatorsk, les habitants sont pragmatiques. En attendant une paix qui semble bien lointaine vue d'ici, ils vivent au jour le jour, souvent au son des explosions, et bien loin des tractations diplomatiques. Emmanuel Chaz, Kramatorsk, RFI.
Et autre protagoniste majeur de ces négociations donc entre l'Ukraine et la Russie, on a commencé à l'évoquer, c'est Donald Trump, bien sûr, qui déclarait ce matin vouloir organiser une rencontre avec Vladimir Poutine dès que ce sera possible. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a estimé en retour que ce rendez-vous entre président russe et américain était certainement nécessaire. Le locataire de la Maison Blanche, qui s'exprimait, lui, depuis Abu Dhabi, alors qu'il achève aujourd'hui une première tournée diplomatique aux allures de voyage d'affaires. Les pays du Golfe Persique qu'il a visités, à savoir l'Arabie Saoudite, le Qatar et donc les Émirats Arabes Unis, ont empilé les signatures de contrats et promesses d'investissement avec les États-Unis. En retour, Washington fournira un accès à des technologies de pointe, notamment dans le secteur de l'intelligence artificielle. Et par effet rebond, le gagnant de ce transfert de technologie, Nathanaël Vitran, ça pourrait être la Chine.
Oui, en tout cas, c'est une source d'inquiétude pour de nombreux faucons aux États-Unis. L'administration Biden avait pris des mesures pour empêcher les pays tiers d'accéder aux modèles les plus avancés de semi-conducteurs, de puces électroniques, pour préserver l'avance des États-Unis dans la course à l'intelligence artificielle, en ayant bien en tête que ces technologies ont aussi un usage militaire, en autorisant Riyad et Abu Dhabi à acheter aux géants américains Nvidia et AMD, ce qui se fait de mieux en matière de puces, jusqu'à 1 million rien que pour les Émirats Arabes Unis, d'après Bloomberg. Donald Trump revient sur ce principe au profit de deals signés pays par pays. Mais dans le même temps, l'administration américaine continue d'interdire l'utilisation de ces technologies pour entraîner les intelligences artificielles chinoises. Tout le monde a en tête l'arrivée tonitruante début 2025 de DeepSeek, un chat GPT chinois aussi performant que ses rivaux américains pour une fraction du coût. Or, G42, la principale entreprise émiratie spécialisée dans l'IA, est pointée du doigt depuis longtemps aux États-Unis pour ses liens étroits avec des entreprises chinoises et notamment Huawei, le géant des télécoms, d'où cette inquiétude d'un possible transfert de technologie au profit de Pékin.
Merci beaucoup Nathanaël Vitran. Donald Trump qui appelait aussi l'Iran ce matin à se bouger, je cite, sur le dossier du nucléaire iranien. Téhéran et Washington qui ont enchaîné en effet 4 cycles de négociations sur ce sujet plus que délicat depuis un mois. D'autre part, l'Iran, elle est visée depuis ce matin par une plainte de la France déposée devant la Cour internationale de justice. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a accusé Téhéran d'empêcher Cécile Kohler et Jacques Paris de recevoir des visites consulaires. Ces deux ressortissants français sont toujours détenus dans le pays. Bonjour Abla Jounaïdi, du service international de RFI. Abla, Paris avait déjà évoqué cette plainte le mois dernier.
Oui, les familles et avocats de Cécile Kohler et Jacques Paris avaient salué cette action destinée à accroître la pression sur le régime. Un tournant tournant majeur, disait le mois dernier la sœur de Cécile Kohler. Paris qualifie Cécile Kohler et Jacques Paris d'otages d'État. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, en a dit un peu plus ce matin sur France 2 à propos des motivations de cette plainte.
Ils sont retenus otages depuis 3 ans en otage. Iran, détenus dans des conditions indignes, qui sont assimilables à de la torture, qui sont privés de ce qu'on appelle les visites consulaires, c'est-à-dire les visites par les membres de notre ambassade pour prendre de leurs nouvelles. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je dépose plainte devant la Cour internationale de justice contre l'Iran pour violation de cette protection, de son obligation de donner droit à la protection consulaire.
Et Cécile Kohler et Jacques Paris sont officiellement les deux derniers Français détenus en Iran. Cela fait plus d'1 an qu'ils n'ont pas reçu la visite de diplomates français. L'Iran a pourtant signé la convention de Vienne qui garantit le droit à la protection consulaire.
À Blajounaïdi. Au moins 74 personnes sont mortes à Gaza ce matin dans des frappes israéliennes selon la défense civile. L'organisation palestinienne qui évoque aussi des dizaines d'autres personnes toujours piégées sous les décombres. Parmi les cibles régulières de l'armée israélienne, il y a notamment les journalistes qui sont en fait coincés dans un étau, le Hamas exerçant aussi sur eux des pressions constantes. C'est ce que dénonce le Comité pour la protection des journalistes, Amira Sulaim.
Des journalistes palestiniens pris en étau. D'un côté, l'armée israélienne qui a tué plus de 200 de leurs confrères depuis le 7 octobre. De l'autre, les menaces du Hamas que dénonce aussi le Comité pour la protection des journalistes. Celui-ci a pu s'entretenir avec des reporters basés dans l'enclave palestinienne. La plupart ont préféré garder l'anonymat. Ils évoquent des intimidations comme des appels téléphoniques leur demandant de ne pas couvrir les manifestations anti-Hamas à Gaza, mais aussi des violences. Un reporter gazaoui raconte ainsi avoir été battu et interrogé pendant des heures par des hommes au visage masqué, se revendiquant du Hamas. Suivis et parfois perçus comme pouvant être des agents d'Israël, ces reporters rapportent un climat de peur qui ajoute à un quotidien déjà très compliqué du fait des bombardements, de la faim et des meurtres de journalistes par Israël. Certains disent aujourd'hui pratiquer l'autocensure pour se protéger. Le mois dernier aussi, Reporters sans frontières avait alerté sur cette double menace qui pèse sur les journalistes de Gaza. Amira Sulaim, Jérusalem, RFI.
La procédure judiciaire contre Sylvia et Noureddine Bongo n'est pas interrompue et se poursuivra jusqu'à leur procès pour détournement de fonds publics. Déclaration du procureur gabonais Eddy Minang ce matin à Libreville. La femme et le fils de l'ex-président gabonais déchu en août 2023 bénéficient d'un régime de liberté provisoire, a précisé le magistrat. Ce matin, la présidence angolaise avait annoncé que Ali, Sylvia et Noureddine Bongo étaient arrivés dans la nuit à Luanda. Et puis 5h56, c'est ce qu'affichait l'horloge ce matin à N'Djamena au Tchad, selon le parti Les Transformateurs, lorsqu'une quinzaine d'hommes en uniforme se sont présentés au domicile de succès Masra. L'ex-premier ministre a été emmené vers une destination inconnue. Le procureur de la République confirme à RFI avoir ouvert une procédure à l'encontre de l'actuel chef de l'opposition.
Et puis le tapis rouge de Cannes n'est pas réservé qu'aux prétendants à la Palme d'Or.
La récompense la plus prestigieuse du festival de cinéma concerne 22 longs métrages, mais il ne faut pas oublier les concours parallèles comme la Semaine de la Critique ou la Quinzaine des Cinéastes. Bonjour Isabelle Chenu.
Bonjour Paul.
Vous êtes l'une de nos envoyées spéciales sur place pour nous parler ce midi du film d'ouverture de la Quinzaine. Il s'intitule Enzo. Il a été réalisé par Robin Campillo, cinéaste qui a pris le relais de son ami Laurent Cantet, décédé l'an dernier à quelques semaine du tournage.
Et oui, on imagine souvent le cinéma comme un milieu hyper concurrentiel, mais il y a aussi des compagnonnages, des histoires de travail partagées au long cours, des familles dans le 7e art, des amitiés. Laurent Cantet, décédé l'an dernier, avait reçu ici à Cannes une Palme d'Or en 2008 pour Entre les murs. Il avait écrit beaucoup de ses films avec Robin Campillo, son monteur, lui-même réalisateur. Enzo est le dernier projet de Laurent Cantet, décédé avant le tournage. C'est donc son ami, Robin Campillo, qui a pris la caméra et donné vie à ce portrait d'adolescent. Enzo, 16 ans, réfractaire, renfermé, est le second fils d'une famille aisée, ouverte et cultivée, qui choisit contre toute attente le difficile métier de maçon. Une période d'apprentissage filmée sous le soleil de la Ciotat dans le sud de la France. Un film testament qui rassemble les questions sociales, souvent traitées par Laurent Cantet, et le désir de liberté et d'affranchissement porté par le cinéma de Robin Campillo.
Merci beaucoup Isabelle Chenu en direct de Cannes pour RFI. Puis une dernière information qui nous parvient, la star du R&B Chris Brown restera en détention jusqu'à la mi-juin. Il avait été inculpé hier pour coups et blessures au Royaume-Uni. Le chanteur de 36 ans est soupçonné d'une agression dans une boîte de nuit à Londres. C'était il y a 2 ans. Je vous repasse la main de Cantner pour la suite d'RFI Midi.
Merci Paul Lancin-Spinelli. À tout à l'heure. L'actualité sportive maintenant. Bonjour Eric Mamrut.
Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
On débute par du football féminin et la conclusion ce soir du championnat de France.
La finale des play-offs va opposer sans surprise les deux places fortes du football féminin français, Lyon qui jouera à domicile et le Paris Saint-Germain. Avec un favori logique, le club rhodanien, triple tenant du trophée, mais les Parisiennes, sacrées en 2021, ne viennent pas en victimes expiatoires. Confirmation avec la défenseur du PSG, Grijmbok.
On a à cœur aussi de montrer ce qu'on vaut et jouer avec aussi nos armes et montrer qu'on veut gagner. Et c'est un titre en fait, c'est une finale, c'est 90 minutes, peut-être plus, peut-être séance de pénalty. Donc tout peut se jouer là et on va jouer notre chance à fond et montrer qu'on veut remporter ce titre.
La finale Lyon-PSG, coup d'envoi 19h, temps universel.
Au programme également ce soir, la Première Ligue anglaise avec 2 matchs avancés de la 37e journée.
Et à 2 journées de la fin, les points valent très cher, surtout dans la course à la Ligue des Champions, particulièrement serrée cette saison avec 6 clubs qui se tiennent en 6 points derrière le déjà champion Liverpool. 2 d'entre eux jouent ce soir avec l'espoir de faire le point. Aston Villa, l'actuel 6e hôte de Tottenham. Et le 5e, Chelsea qui recevra Manchester United, des Blues qui ne visaient pas forcément en début d'exercice une qualification pour la Ligue des Champions. Mais les bons résultats venant, l'appétit est venu en mangeant. Confirmation avec le manager de Chelsea, Enzo Maresca.
Depuis le premier jour, j'ai dit que l'objectif que le club m'avait donné était que dans 2 ans, nous jouions la Ligue des Champions. Mais quand on arrive au mois de mars et qu'on a été toute la saison dans le top 4 ou le top 5, c'est naturel que le but soit de se qualifier pour la Ligue des Champions. La raison pour laquelle l'objectif a changé par rapport au début, c'est parce qu'en arrivant à la trêve internationale de mars, je m'en souviens très bien, nous étions à ce niveau-là toute la saison. C'est donc normal qu'à ce moment-là, l'objectif soit automatiquement devenu de finir dans le top 4 ou le top 5. Maintenant, nous y sommes et nous allons tâcher de bien finir.
Chelsea, par ailleurs, finaliste de la Ligue Europa Conférence en face Manchester United, disputera prochainement la finale de la Ligue Europa. Coup d'envoi de ce match à 19h15 TU.
Hier, le FC Barcelone s'est assuré le 28e titre de champion de son histoire.
Au soir du 36e épisode de la Ligue espagnole, c'est dans la poche en effet pour le Barça après sa victoire hier sur le terrain de l'Espagnol, Barcelone lors du derby 2-0. Avec 7 points d'avance sur le Real Madrid, l'équipe d'Hansi Flick a la marge suffisante pour d'ores et déjà célébrer ce nouveau sacre. Un titre pas forcément évident au début de saison lorsque l'entraîneur allemand est venu remplacer Xavi, démissionnaire. Écoutez l'analyse du consultant de Radio Foot International, Salim Bangali.
C'est un fait, il y avait beaucoup d'interrogations autour de ce nouveau Barça, un nouveau coach qui voulait mettre en place une nouvelle philosophie. Et puis surtout, il y avait eu beaucoup de doutes qui s'installaient après le passage Xavi, qui était pourtant un enfant du club, mais qui n'arrivait pas à mettre en place ce qu'il souhaitait. Flick, c'était un inconnu, entre guillemets, à Barcelone, je dis bien. Et au final, il a réussi à faire des choses formidables. Un jeu basé sur l'attaque, 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 la possession, la possession, la possession. Il est revenu à l'ADN du Barça, à son paroxysme même de l'ADN du Barça, à vouloir à tout prix avoir le ballon, quitte à prendre parfois des buts, beaucoup de buts même. Mais l'objectif du Barça cette année, c'était mettre un but de plus que l'adversaire. Mission accomplie.
Le Barça triplement sacré cette saison, puisqu'il a également décroché la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne. Son président, Joan Laporta, a d'ailleurs annoncé ce matin la prolongation d'Hansi Flick jusqu'en juin 2027.
Et en tennis, les demi-finales du Masters 1000 de Rome sont à l'affiche aujourd'hui.
Avec tout d'abord une affiche très alléchante entre Carlos Alcaraz et l'Italien Lorenzo Musetti. C'est le remake de la récente finale du tournoi de Monte Carlo remporté par le jeune Espagnol. Un autre transalpin sera en lice tout à l'heure. Yannick Sinner opposé à l'Américain Tommy Paul, le numéro 1 mondial, qui partira favori après avoir écrabouillé hier le Norvégien 7e mondial et récent vainqueur du Masters 1000 de Madrid, Casper Ruud. Le score 6-0-6-1.
Merci Eric Mamrut. L'actualité sportive à retrouver aussi sur internet rfi.fr.
RFI. Le monde à midi.
On retrouve tout de suite notre invité. Bonjour Sergio Miscoyou.
Bonjour.
Professeur des universités en sciences politiques à la faculté d'études européennes de Cluj-Napoca en Roumanie. On va revenir avec vous sur la drôle de campagne de George Simion, candidat d'extrême droite populiste, que les sondages donnent au coude à coude avec l'autre candidat du second tour de la présidentielle dimanche, Nikos Ordan. Nous sommes donc à 2 jours du scrutin et George Simion n'est pas dans son pays. Il est en tournée en Europe. Ça vous étonne ?
Ça peut paraître étonnant à la première vue, mais la stratégie de George Simion a été de ne pas aller faire des débats avec son contre-candidat et de discuter directement avec les communautés roumaines, notamment celles de la diaspora, en espérant que de cette manière, il sera capable de convaincre un nombre supplémentaire de Roumains de le voter et en même temps en se mettant à l'abri des questions difficiles à répondre et de l'attitude pugnace de son adversaire qui a été une sorte de révélation, notamment dans le premier débat qui a été organisé par Euronews en Roumanie dans la première semaine de campagne, gagné par M. Nikos Ordan justement à travers sa manière très claire, très nette de formuler des réponses et de mettre en difficulté son adversaire.
Oui, c'est ça, c'est que ça s'accompagne en parallèle d'une absence des médias en Roumanie. Vous avez mentionné son intention de s'adresser aux Roumains de l'étranger. Ils sont très nombreux et surtout, ils ont très largement voté pour lui. Au premier tour, il avait obtenu 41% des suffrages et plus de 60% chez les Roumains de l'étranger. Qui est-elle cette diaspora? Oui, est-ce qu'on peut estimer qu'il y a que les Roumains de l'étranger vivent des situations qui se ressemblent dans plusieurs pays d'Europe dans lesquels ils sont installés?
Effectivement, notamment dans les pays où il y a beaucoup de Roumains, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France surtout, les Roumains ont une sorte de frustration déjà accumulée à travers le temps, en se sentant d'une certaine façon européens de ce qu'on mène. Et cela est dû en principalement au fait que l'espace Schengen n'a été pleinement ouvert à la Roumanie qu'à partir du 1er janvier 2025, donc très très récemment, et puis parce que ils ont toujours entretenu une relation assez ambivalente avec leur pays d'origine, tout en étant critiques par rapport au système politique, par rapport aux évolutions de la Roumanie, aux transformations jugées parfois trop lentes, et tout en désirant se positionner comme donneur de leçons vu leur expérience occidentale. Pour une longue partie de la transition roumaine, cette attitude s'est traduite par un vote plutôt en faveur des partis réformistes de centre-droite contre le néo-communisme dénoncé en Roumanie. Mais cela a viré depuis la fin des années 2010 vers des votes de plus en plus liés à l'extrême droite, justement parce que, et là c'était la grande erreur de l'establishment politique roumain, on a eu au pouvoir en Roumanie depuis septembre 2021 une grande coalition entre les libéraux et les sociaux-démocrates, et donc la seule grande alternative était l'extrême droite.
Qui donc bénéficie là du vote des Roumains de l'étranger? Est-ce que ce vote est un vote donc de colère au regard de ce que vous nous avez dit, ou un vote vraiment d'adhésion aux propositions de George Simion, si tant est qu'on puisse le savoir?
On a fait des recherches justement sur les votants de M. Georgescu et de M. Simion, notamment aux élections annulées de novembre 2024. Et on a découvert effectivement qu'il s'agit d'un vote de type protestation contre le système politique et contre notamment la mainmise d'une élite et d'une oligarchie sur celui-ci. Une frustration qui se manifeste dans les urnes et dans une moindre mesure une vote d'adhésion, notamment par rapport à M. Simion. D'ailleurs, on a des premiers éléments qui sont, disons, juste à titre indicatif, comme quoi le vote qui a commencé aujourd'hui dans la diaspora roumaine indique une mobilisation beaucoup plus forte que la fois précédente, donc qu'il y a 2 semaines, et que beaucoup de Roumains qui qui sont surtout des étudiants, des cadres moyens, des gens appartenant à des catégories qui ont moins de frustration, se présentent aux urnes. Ce qui voudra dire probablement qu'il y aura un certain rééquilibrage, c'est-à-dire que M. Simeone fera probablement une majorité dans la diaspora, mais que M. Dan pourra récupérer l'ensemble des voix de ceux qui n'ont pas voté pour M. Simeone au premier tour à l'étranger.
Est-ce que c'est parce que lui aussi s'est adressé davantage à la diaspora ces dernières semaines pendant la campagne ? Est-ce qu'il a essayé aussi de convaincre ?
Pas forcément, non, mais c'est parce que beaucoup de Roumains ont compris, notamment avec cette tournoi de M. Simeone à l'étranger, que l'image de la Roumanie, si M. Simeone est élu, sera bien écorchée. L'interview qu'il a faite hier soir pour la chaîne CNews a été une catastrophe de tous les points de vue. La réaction de la diaspora roumaine a été particulièrement négative parce que M. Simeone n'a pas hésité à s'attaquer à la France, à son histoire, à l'identité, à l'absence de religion, au rôle de la France à l'international, tant de sujets qui ont mis à mal les Roumains, dont l'objectif est quand même de s'intégrer dans les communautés d'accueil, d'être bien reçus et d'éviter justement les scandales ou une attention trop importante sur les problèmes de cette communauté.
Merci Sergio Miscoyou d'avoir été en ligne avec nous, professeur des universités en sciences politiques à la faculté d'études européennes de Cluj-Napoca en Roumanie. On votera aussi dimanche en Pologne. On parlait tout à l'heure des deux favoris pour la présidentielle. Nous sommes à deux jours du premier tour et il y a un troisième homme, Sławomir Mentzen. Une vision sociétale très conservatrice, mais un programme économique très libéral qui séduit les jeunes, comme l'a constaté notre correspondant Adrien Sarla lors d'un meeting à Varsovie.
Il fait partie de ces hommes politiques qui savent soigner leurs apparitions. Émergeant d'un nuage de fumée rouge et blanche, Sławomir Mentzen salue les centaines de Varsoviens massés sur la place de la Cour suprême polonaise. Au milieu de la foule, Christian est déjà conquis par le candidat au discours nationaliste, anti-immigration et europhobe.
En tant que citoyen, je veux pouvoir rouler dans la voiture que je veux. Je veux pouvoir porter une arme à ma ceinture et je ne veux pas qu'un quelconque politique essaie de m'en empêcher.
C'est avant tout le côté libertarien du candidat qui a su convaincre le jeune étudiant en marketing. Agata, elle, ne sait pas encore pour qui elle va voter, mais elle est déjà convaincue par le personnage.
C'est le candidat le plus puissant en termes de caractère. Il est sûr de lui et de ce qu'il dit. Et si les jeunes veulent quelque chose de nouveau, ils vont vouloir quelqu'un qui a un fort caractère et qui n'a pas peur de s'affirmer.
La jeune indécise serait presque prête à sauter le pas, quitte à fermer les yeux sur la vision très conservatrice et nationaliste de Mentzen sur les questions sociétales.
Ce n'est pas le candidat dont je me sens la plus proche en termes de questions sociétales, mais son discours sur les questions économiques et financières me parle davantage. Et je pense que c'est important, car les jeunes veulent pouvoir monter des entreprises et gagner de l'argent.
À 18 ans, Véronika s'apprête à voter pour la première fois et pourrait se laisser tenter par lassitude alors qu'elle s'oppose frontalement à certaines de ses promesses.
Je ne soutiens pas tous les points du programme de Mentzen. Par exemple, le fait qu'il veuille rendre les études payantes. Mais je veux aussi qu'il y ait d'autres alternatives qu'un gouvernement PO ou PIS et que quelqu'un de nouveau puisse entrer dans la course.
Un sentiment de désillusion partagé par la plupart des Polonais d'une vingtaine d'années qui n'ont connu toute leur vie que l'alternance entre les gouvernements de Tusk et de Kaczynski. Alors chez Konfederacja, on a fait place nette à l'approche des élections en prenant ses distances avec son fondateur. Il était notamment connu pour avoir déclaré que les femmes faisaient partie du patrimoine de leur mari ou encore qu'il faudrait leur retirer le droit de vote. À 17 ans, Olivia assure n'avoir rejoint les jeunesses du parti qu'après son éviction.
Je ne suis pas d'accord avec la majorité de ce qu'il a pu dire. Et en venant ici, je me suis rendu compte que la majorité des politiciens avec lesquels je parlais n'ont absolument pas la même opinion. Maintenant, on a des députés et des eurodéputés chez Konfederacja.
Au mois d'avril, la moitié des jeunes électeurs comptaient donner leur voix à Mentzen, une proportion aujourd'hui divisée par deux, depuis que le candidat a qualifié le viol de simple désagrément. Adrien Sarla, Varsovie, RFI.
Un reportage à retrouver sur notre site internet. Vous pourrez aussi y lire les portraits des deux favoris pour cette élection en Pologne. Premier tour de la présidentielle dimanche. Le libéral europhile Rafał Trzaskowski et puis le nationaliste Karol Nawrocki, tous les deux donc en tête des sondages devant ce candidat qui se voudrait troisième homme. RFI vous propose une programmation dédiée à ces scrutins en Pologne samedi pour l'émission géopolitique et puis en Roumanie dimanche.
Ce lundi sur RFI,
édition spéciale en direct de Bucarest.
Andréane Mélard.
Toute la journée, RFI sera en Roumanie ce lundi avec nos invités et nos envoyés spéciaux. On va analyser, on va décrypter les résultats des présidentielles en Roumanie, second tour, et en Pologne, premier tour, des scrutins cruciaux pour l'avenir de toute une région sur fond d'ingérence russe et de montée de l'extrême droite. Rendez-vous ce lundi dès 6h, temps universel sur RFI.